Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
L'espéranto possède les qualités indispensables à une langue universelle. C'est la plus facile de toutes les langues et elle est pourtant assez riche pour permettre de parler de tous les sujets.
Dans le milieu de l'espéranto, on m'appelle Famo.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'espéranto, ça vous parle? Pas vraiment, mais vous êtes curieux. C'est la langue qu'on vous fait découvrir dans la curiosité, une langue universelle enseignée dans 120 pays à travers le monde. Nous avons confié la traduction simultanée de cette langue à notre consultant en histoire, Pierre Baron. Bonsoir, vous allez bien?
Bonsoir, Sidonie, ça va?
Bonsoir,
on va
Pierre.
Se le dire en espéranto, tiens, juste pour
allez,
donner le ton.
Ça marche comment?
Bonan vesperan, ça se dit. Donc voilà, une belle langue inventée il y a 130 ans par un médecin polonais avec une vie et une œuvre assez exceptionnelles.
Alors, il est mort il y a 100 ans. 14 avril 1917, il s'appelle Ludwig Zamenhof, c'est ça? C'est
oui.
Le père de l'espéranto. Qui était-il? Décrivez-nous le bonhomme un peu.
Il avait un peu tout pour réussir, Zamenhof. Il vivait dans une région très cosmopolite, je vais y revenir tout de suite. Il était issu d'un milieu juif extraordinairement cultivé, qu'on pourrait appeler, enfin dans la langue allemande, c'est Aufklärung, c'est les Lumières, donc très érudit. Mais très vite, il avait compris, dans la ville où il est né, à Bialystok, dans le nord-est de la Pologne, qu'il y avait effectivement un énorme problème de communication entre les gens. Parce que cette ville, elle était... Bon, il n'y avait pas de Pologne à l'époque, hein, donc on est à la fin du 19e siècle. On est dans... C'est l'Empire russe, d'accord?
Ouais.
Et Bialystok, c'est une petite ville, elle fait 30 000 habitants, avec 4 langues. Et 4 communautés. Le yiddish, pour 18 000 d'entre eux, le polonais, pour 3 000 citoyens, le russe, pour 4 000 autres, et enfin l'allemand, pour les 5 000 qui restent.
Et puis à cela se superposent tous des origines sociales, en plus de ces 4 langues.
C'est le Bins.
Ah, c'est les gros et colossal Bins, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas que, effectivement, la barrière de la langue, il y a aussi les origines sociales. Les paysans parlent le russe, qui est la langue officielle, puisqu'on est dans l'Empire russe encore. Les intellectuels parlent et surtout ils écrivent le polonais. Les ouvriers, eux, s'expriment majoritairement en allemand. Et les commerçants, en yiddish. Donc, ça veut dire que dans cette petite ville de 30 000 habitants, 4 langues, 4 communautés, il y a des tensions incessantes, violentes, entre ces groupes de gens, entre autres aussi par rapport à la langue.
Et c'est cette ville qui va servir de laboratoire au jeune Zamenhof pour créer une langue praticable par tous. Ce qu'on appelle une langue universelle?
Oui, c'est exactement ça. Parce qu'en plus de tout ce qu'on a décrit dans la jeunesse, dans le berceau de Zamenhof, il y a la misère de Bialystok. C'est pas du tout une exception. Hein. À la fin du 19e siècle, dans cette région d'Europe, c'est la misère partout. Mais cette misère, elle va aggraver considérablement les choses. On imagine que ça va provoquer régulièrement des affrontements, des déchaînements de violence, de haine entre les communautés. Et je pense que c'est cette violence, sans aucun doute, dès son enfance, qui va forger la prise de conscience du gamin, du jeune Zamenhof.
Mais il a un désir d'humanité, en fait, d'apaisement, de paix, c'est ça qui l'anime dès tout jeune?
Ah oui, il a ce désir-là et il comprend assez vite, par son milieu familial, Sidonie, que ça peut passer par les langues. Ce désir de pacification et de communication. Son père, Markus Zamenhof, est déjà professeur d'allemand et de français. C'est un professeur réputé, papa Zamenhof. Hein. Il a déjà écrit des manuels d'apprentissage qui font autorité. Donc, dans cette famille juive, on pratique le yiddish et l'hébreu en plus. Donc oui, effectivement, cette passion de Zamenhof pour les langues, elle a vraiment tout pour se développer et c'est exactement ce qui va arriver.
Alors comment Zamenhof va commencer à imaginer cette langue? Parce que c'est quand même un chantier absolument énorme, inventer une langue, Pierre Baron.
Bah, il va s'y mettre tout seul avec des connaissances linguistiques qui lui sont propres. On est en 1878, Zamenhof a 19 ans et il travaille déjà depuis 4 ans à un projet qu'il a baptisé Lingua Universala, c'est-à-dire la langue universelle, qui présente à des copains, des camarades de classe. il faut le dire clairement, Sidonie, c'est un peu le bide. Hein. C'est-à-dire, personne ne croit à ce projet. Et surtout, ce qui est triste pour lui, à commencer par son propre père, qui l'envoie étudier la médecine à l'université de Moscou. Plus que cela, même puisque ce père lui fait promettre d'abandonner ses projets pendant ses années de fac. Donc, Ludwig accepte. Et avant de partir dans la capitale russe, il remet à son père toutes ses notes que celui-ci va conserver sous clé.
Alors, on va continuer de raconter l'histoire de l'inventeur de l'espéranto. C'était il y a 130 ans.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous ne la parlez probablement pas et pourtant elle existe. Cette langue, on vous raconte l'espéranto dans la curiosité, une langue inventée il y a 130 ans, tout juste par un médecin polonais qui voulait une langue universelle. Notre invité Pierre Baron, notre consultant en histoire, nous l'a fait découvrir. Alors on a bien compris qu'il y avait entre l'inventeur de cet espéranto, Zamenhof, et son père, une querelle, une opposition. Finalement, comment ça va se solder cette opposition? Son père lui a piqué ses notes, c'est ça?
Ouais, il n'a pas tenu parole. Ouais. Le gamin est parti étudier la médecine à Moscou. Et quand il est rentré, Ludwig, eh bien, le père, il a demandé bien sûr où étaient les papiers qu'il avait confiés à son père. Sa mère lui a dit que le papa, il avait tout détruit. Mmh. En gros, il y avait quand même 4 ans de travail qui était parti, perdu. Et il lui a fallu tout recommencer. C'est ce qu'il a fait. Il s'est appuyé d'abord sur une mémoire colossale. Faut pas oublier que Zamenhof, même à une vingtaine d'années, maîtrisait quand même à des degrés divers la bagatelle d'une douzaine de langues, mortes ou vivantes, ce qui suppose bien sûr une mémoire, ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire, considérable. Donc grâce à cette mémoire, il a tout reconstitué, patiemment, ce qu'il avait commencé à faire depuis l'âge de 15 ans. Et puis il a même enrichi, il a amélioré, il s'est servi des contacts qu'il avait eus avec les étudiants en médecine qu'il avait commencé à rencontrer à Moscou, parce que quand même on est dans l'Empire russe, donc il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de langues, pour pouvoir améliorer le processus et le vocabulaire de l'espéranto.
Zamenhof qui est devenu ophtalmologiste?
Oui. Au départ, il est généraliste, Sidonie. Oui. Mais en fait, c'est pas terrible, quoi.
Ça lui plaît pas?
C'est pas ça, c'est qu'il est un peu trop sensible, ce garçon. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette ville, c'est la misère, et il supporte très très difficilement la misère. Alors il y travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, non seulement il est sensible, mais il est très généreux, parce que la plupart du temps, il se fait pas payer. Il fait pas payer ses consultations. Donc, il peut pas tenir très très longtemps, parce que le jour, il fait médecin, et le soir, il continue à travailler sur sa langue nouvelle.
Oh, c'est pas tenable,
c'est un peu
ça.
Intenable.
Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il va sortir de ce marasme. La chance va tourner pour lui. On est donc en 1887, il y a 130 ans, année décisive. Qu'est-ce qui se passe pour lui?
Je crois que la chose la plus importante déjà, ce qui se passe, c'est qu'il va rencontrer... Arrive souvent ça dans la vie des grands hommes. Il va rencontrer une femme à la hauteur, une grande dame. Ça arrive,
c'est
ça.
Tout bon.
Je trouve souvent chercher la femme chez les grands hommes. Et cette femme, c'est une jeune femme qui est très très vive, elle est pleine d'enthousiasme, pleine d'allant. Elle s'appelle Clara Silbernick. Et je crois que non seulement elle va épouser l'homme, mais elle va épouser la cause aussi. C'est-à-dire qu'elle va vraiment faire corps avec cette idée, ce projet qu'il porte en lui depuis tout le temps de cette langue nouvelle. Et non seulement il va trouver une femme à la hauteur, mais il va trouver un beau-père à la hauteur, parce que le père de Clara, Alexandre Silbernick, lui, c'est quelqu'un qui va l'aider, y compris d'ailleurs matériellement, constamment. Il lui fera jamais défaut. En gros, il a trouvé une belle famille qui est plus à la hauteur que n'a été sa propre famille.
Et ça va tout changer pour lui et l'espéranto, la langue qu'il est en train d'inventer et d'écrire?
Ah, complètement, Sidonie, c'est un tournant l'année 1887. Il a fait 13 ans de recherche, il est juste avant son mariage, et c'est cette année-là, justement, qu'il va publier l'ouvrage, son ouvrage majeur, qui est publié d'abord en russe, puis la même année en français, en allemand et en polonais. Le livre, il est très simple. On comprend tout de suite que ça risque d'avoir un succès considérable parce que cette langue, elle a ni plus ni moins que 16 règles de grammaire. Je ne sais pas si vous voyez, 16 règles de grammaire.
Oui,
ça, on comprend assez vite. Il y a 900 racines de termes fondamentaux, de mots simples, du vocabulaire. Et puis surtout, pour bien comprendre sa portée, il y a des textes qui sont traduits dans cette nouvelle langue. Le Notre Père... il y a des versets de la Bible ou encore quelques poèmes. Voilà. Et le manuel s'appelle... Langue internationale.
Mais c'est pas ce titre qui va rester, c'est pas ça qui va passer à la postérité.
Et non, Thomas, effectivement. Parce que Zamenhof va utiliser un pseudonyme pour signer le bouquin. Et il va, ce pseudonyme, c'est Doctoro Esperanto. C'est en gros, dans cette langue, c'est-à-dire le docteur qui espère. Et voilà, il vient de donner un nom à sa nouvelle langue, Esperanto.
Pierre Baron, tout à l'heure, je disais, en passage d'antenne avec Marc-Olivier Fogiel, allez-vous, Kiom Kara Amiko? Comment allez-vous, cher ami? On dirait que c'est une langue, et il devait me répondre, mi esta bonne. On a l'impression que c'est une langue.
Ça ne veut pas dire tu es bonne, Sidonie.
Ah, pas du tout, ça veut dire moi je vais bien. Je m'attendais tellement pas ça de Marc-Olivier. Ni de vous, Thomas Hugues, d'ailleurs.
Oh, moi je suis capable de tout.
Non, il a profité de l'espéranto.
Et on dirait que l'espéranto, c'est un emprunt de mots à plein de langues. C'est comme ça qu'il l'a imaginé à l'origine, Zamenhof. Oui, ayez honte, Thomas Hugues. Allez au coin.
On le laisse rougir tranquillement.
Oh, j'adore.
En fait, c'est vrai que quand on l'entend, cette langue, elle a beaucoup de consonances latines, dans l'exemple que vous venez de prendre. Et c'est vrai que si vous écoutez un discours en espéranto, il y a beaucoup de sonorités qui font italien ou espagnol. Mais dans les langues de base, pour répondre à votre question avec précision, ben on retrouve les langues de la ville natale de Zamenhof, c'est-à-dire l'allemand, le polonais, le français dans une moindre mesure. Et c'est ces langues-là qui sont à la base, l'italien aussi et le latin.
Allez, on continue de raconter l'espéranto, à tout de suite dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL. Que se cache-t-il dans les eaux sacrées de ce gigantesque lac de légende? Jusqu'à 22h, les fouilles, qui vont se poursuivre pendant encore près de 3 ans, permettront aux scientifiques de remonter toujours plus loin dans le temps et tenter ainsi de mieux comprendre l'histoire trop méconnue de ces grandes civilisations andines. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et là, vous vous dites, c'est bizarre, on dirait Katy Perry, Adèle et Bob Marley, mais on ne reconnaît pas vraiment la langue. Eh ben non, c'est en espéranto des chanteurs qui ont repris ces grands tubes. L'espéranto, c'est quoi? C'est une langue universelle créée par un médecin polonais il y a 130 ans. Et c'est notre consultant en histoire adoré, Pierre Baron, qui nous raconte cette histoire de langue absolument fascinante. On est en 1887 et ce médecin, contre vents et marées, notamment c'est son père qui n'était pas très d'accord, invente cette langue pour réunir un peu tous les peuples de son village polonais. Il va trouver de l'aide auprès de sa femme et sa belle famille. Et là, en fait, il publie un livre et on se dit, bah, c'est une langue complètement nouvelle. C'est le premier à imaginer une langue universelle.
C'est une langue nouvelle, mais ce n'est pas une langue pionnière. Parce que 10 ans avant, il y avait déjà une tentative d'une autre langue avec la même vocation d'être universelle. C'est une histoire assez rigolote. C'est un médecin allemand qui, dit-il, avait entendu Dieu lui ordonner pendant ses siestes de créer une langue pour que tout le monde puisse le comprendre. Et cette langue, elle a un nom bizarre. On l'a gardé d'ailleurs, le mot, on l'a gardé, ça s'appelle le volapük. Le volapük, on l'utilise pour dire qu'on comprend rien, que c'est complètement ésotérique, on dit que c'est du volapük.
On pourrait dire que Jean Lassalle parle du volapük un peu.
Ça, c'est. Vous voyez.
Ça n'engage que moi.
Ça, c'est vous qui le dites.
Enfin, dans la version de Laurent Gérard le matin sur RTL, ça, c'est sûr.
Le gars, il fait 1,90 m, c'est vous qui voyez. D'accord. Donc, le volapük, c'était fait aussi pour que tout le monde. Et au début, ça marche très bien, le volapük. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des congrès en 1884, en 1887, en 1889. En 1889, on dit qu'il y a 1 million de personnes dans le monde, c'est pas rien, qui parlent volapük. Puis, pas de chance, bah c'est toujours pareil, il va y avoir, pour une langue qui est censée être universelle, il va y avoir des dissensions, des querelles de chapelle, et puis cette langue, la plupart des gens qui la parlent, à la fin du 19e, et ben justement à cause de ces dissensions, et ben ils vont se remettre à l'espéranto, ils vont partir vers l'espéranto.
Et la langue créée par ce médecin polonais Zamenhof, qui se fait appeler sur le livre Doctoro Esperanto, elle se développe vite?
Ah oui, très vite, très tôt. Je pense même, Thomas, que ça va au-delà des espoirs que devait avoir Zamenhof, le bon docteur. En 1849, on a une première liste de 1000 adresses de personnes qui se disent intéressées par le projet, en qui on peut envoyer du courrier. 1889. Hein. En 1900, donc 11 ans plus tard, il y en a plus de 5500. Il y en a un peu plus de 13 000 en 1905. Ça redonne quand même un essor considérable. Il y a eu déjà quand Zamenhof jeune créait cette langue, il y avait déjà une censure très forte du régime tsariste parce qu'ils avaient peur qu'on puisse communiquer à travers cette langue des messages révolutionnaires. Ça a échoué puisque la langue va sortir de Russie. Elle va sortir de Russie, elle va connaître très très vite, elle va se répandre sur les autres continents. Dès le début des années 1900, il y a des sociétés d'espéranto qui commencent à se former. Il y en a une quarantaine en 1902 et il y en a près de 10 fois plus 3 ans plus tard. Donc, le nombre de personnes qui apprennent la langue, il grimpe à une vitesse vertigineuse.
Mais sur d'autres continents que l'Europe ?
Oui, ça c'est surprenant. Je pense surtout à l'Asie. Il y a eu une guerre russo-japonaise en début du XXe siècle, en 1905, et à travers cette guerre, cette langue va se développer en Japon. Elle va se développer aussi en Chine. La première ville de Chine où l'espéranto est enseigné, c'est Shanghai. Et puis 2 ans plus tôt, en 1908, si ma mémoire est bonne, c'est à Canton. Et on attend vraiment... Après, ça sera l'Amérique. Et après, ça sera l'Amérique latine. Mais on ne s'attend pas du tout à l'Asie comme premier continent pour une langue comme ça, qui a été inventée en Russie. C'est bizarre, quoi.
À quel moment l'espéranto va conquérir la France ?
Oh, il y a 1905... Avec une ville, c'est très simple, c'est 1905, c'est Boulogne-sur-Mer, et c'est à l'occasion d'un congrès international. Alors, pour vous situer, en 1905, ça c'est l'année de la grande consécration pour Zamenhof, parce que c'est le premier grand congrès international d'espéranto. Ils sont quand même, en 1905, 688 participants, et elles représentent 20 pays. C'est énorme, ça commence déjà à prendre cette affaire.
Et là, l'espéranto, c'est de l'écrit, mais aussi de l'oral. On l'entend, on le chante, on...
Oui, on commence à le parler, exactement, Sidney. Parce qu'au départ, c'était une langue écrite. D'ailleurs, Zamenhof, les premières choses qu'il fait, c'est de traduire des grands textes. Justement pour montrer que cette langue est suffisamment riche pour qu'on puisse traduire. Par exemple, il traduit Hamlet, il traduit des grands textes russes. Justement pour dire, regardez... Mais 1905, c'est justement l'année où on a passé de l'écrit, qui est essentiellement les départs de l'espéranto, c'est ça, à une langue parlée. Ce qui, bien sûr, compte tenu de ce qu'est l'espéranto, est fabuleux, puisque l'espéranto, c'est une langue, on va pas être pédant, on va faire simple, qui est quasiment phonétique. Ça veut dire que chaque son se prononce, contrairement aux autres langues, y compris la nôtre, où il y a des sons qui s'écrivent mais qui ne se prononcent pas. Et elle a un autre avantage. C'est qu'il n'y a pas d'accent dans cette langue puisqu'elle est purement phonétique. Ça veut donc dire que vous pouvez l'apprendre sans nécessairement, il n'y a pas de pays d'ailleurs qui la parle, mais aller dans un endroit où l'espéranto serait pur, puisque par définition elle est purement phonétique.
Donc c'est un succès qui grandit tout au long de ces années d'avant Première Guerre mondiale. Zamenhof va-t-il accompagner ce succès pendant longtemps ?
Eh bien, il ne va pas voir la fin de la Première Guerre mondiale, puisque le deuxième congrès devait avoir lieu encore à Paris. En 1914, il y en a eu une rafale avant, on va les passer. Et celui-là, il devait déjà, en 1914, il devait accueillir presque 4000 congressistes. Vous voyez un peu la progression. Et cette fois-ci, on était à plus de 20 pays, mais on était à 50 pays. Et bien sûr, la Première Guerre mondiale éclate. Comme Zamenhof va mourir en avril 1917, donc il y a 100 ans, il ne verra pas la fin de la guerre. Hélas pour lui, par contre, il va voir arriver un déferlement de haine, et tout au moins pas lui, mais ses enfants.
C'est-à-dire qu'il y a des régimes qui vont interdire l'espéranto, c'est ça ?
Ah oui, le premier d'entre eux, c'est les nazis. Ouais. Pratiquement 2 ans, enfin c'est pas pratiquement, c'est 2 ans, les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne en 1933. En 1935, qu'est-ce qu'ils font ? Ils interdisent l'usage de l'espéranto. Bon, c'est vrai qu'il y a une circonstance qui est rédhibitoire à leurs yeux, c'est que le fondateur et le père de cette langue étaient juifs. D'accord, très bien. Bon, ils vont le soigner, si j'ose dire. Ils vont les soigner, la famille Zamenhof. Parce que dès qu'ils ont envahi la Pologne, la Gestapo de Varsovie reçoit l'ordre d'arrêter les 3 enfants de la famille. Le fils, Adam, qui est tué en 1940, et les 2 sœurs qui sont assassinées à Treblinka 2 ans plus tard. Donc effectivement, on voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment intérêt à ce que les gens se parlent entre eux. Et il y a une chose qui est intéressante, il n'y a pas que les nazis qui ont persécuté les gens qui parlent l'espéranto. Hein.
Il y a aussi les soviétiques.
Exactement. Digne héritier des gens du tsar, Staline a quand même envoyé 30 000 espérantistes au goulag en pratiquement 20 ans, de 1936 à 1955.
Mais pourquoi, pourquoi ?
D'abord, il considérait, dans un premier temps, dans ses écrits, il pensait que l'espéranto, c'était une langue internationale bourgeoise qui était propice à l'espionnage. On retrouve les mêmes soucis que la censure des tsaristes. Hein. Et après... Il s'est dit, tiens, je vais peut-être pouvoir l'utiliser pour répandre le communisme. Bon, très bien. Comme quoi, tous les intérêts se rejoignent pour qu'effectivement, les gens, une fois de plus, ne se parlent pas.
En fait, on comprend que l'espéranto, c'est un lien entre les gens et puis c'est aussi un synonyme de liberté, Pierre Baron.
Bien sûr que c'est un synonyme de liberté. Mais c'est surtout fabuleusement facile à apprendre. Je pense que si ça fonctionne bien, c'est une condition nécessaire. Il y a des langues, on le sait tous, qui sont plus faciles d'usage, on parle entre nous. L'espéranto, ça bat tous les records. On a fait des études pour montrer que si on prend un groupe de jeunes du niveau baccalauréat en France, et on prend quatre langues, l'espéranto, l'anglais, l'allemand et l'italien, on voit quel est le niveau d'apprentissage pour passer d'une langue à une autre. Il faut 2000 heures d'études de l'allemand pour produire un niveau linguistique équivalent à 1500 heures d'études d'anglais. D'accord ? 1000 heures d'études seulement en italien et en espéranto, 150. Vous voyez l'écart ?
Oui, c'est beaucoup plus facile. On termine là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui parlent l'espéranto aujourd'hui. C'est facile de
On pense qu'on a à peu près 2 millions dans le monde. C'est pas si simple avec précision. Mmh. Mais pour une langue qui n'est parlée que par des bénévoles, par des associations, c'est déjà pas si mal.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
À très vite au micro de la curiosité.
Mais on l'espère bien.
Comment on se dit au revoir? Comment on se dit bon vent?
Kenavo, mais ça c'est du breton.
Oui, mais c'est de la phonétique.
Longa
et c'est
vivo,
très joli.
Longa vivo.
Longa vivo. C'est
cara amicos.
Longue vie. Voilà.
Cara amicos, mes chers amis.
Bon, très bien.
Vous voyez, on comprend tout.
Oui.
Tout.
Vous écoutez RTL.